Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 14 juin 2021. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Laurent Gbagbo, qui revient jeudi en Côte d'Ivoire, sera accueilli au pavillon présidentiel de l'aéroport d'Abidjan, a annoncé son parti. Incertitude en Algérie dans l'attente des premiers résultats après les élections législatives anticipées de samedi. Israël, Benjamin Netanyahou évincé du pouvoir. Le nouveau premier ministre de droite, Naftali Bennett, cédera la place au centriste Yair Lapid dans 2 ans. Sommet de l'OTAN, Joe Biden a appelé les alliés de l'Alliance Nord-Atlantique à affronter les défis posés par la Chine et la Russie. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui doit revenir jeudi dans son pays après 10 ans d'absence, sera accueilli au pavillon présidentiel à l'aéroport d'Abidjan, a annoncé le FPI. Le point avec Eric Manirakiza.
Le président Alassane Ouattara a décidé de donner le pavillon présidentiel pour accueillir le président Laurent Gbagbo, a déclaré le secrétaire général du FPI, Assoua Adou. Il a salué un message fort et remercié solennellement Alassane Ouattara pour ce geste en faveur de la réconciliation nationale. Laurent Gbagbo sera de retour dans son pays par un vol régulier en provenance de Bruxelles qui doit atterrir à 15h45 local et en temps universel à l'aéroport international d'Abidjan, a rappelé Assoua Adou. Mais à 3 jours de son arrivée, son parti et le gouvernement ont donné peu de détails sur l'organisation de cette journée qui pourrait voir les supporters de l'ex-président affluer massivement vers l'aéroport pour accueillir leur chef. Le souci des deux partis est cependant de vouloir éviter tout débordement à l'occasion de ce retour. Le président Ouattara a autorisé son ancien rival à rentrer en Côte d'Ivoire après son acquittement par la Cour pénale internationale de La Haye. Fin mars, Laurent Gbagbo était accusé de crimes contre l'humanité.
L'armée sénégalaise a indiqué avoir pris plusieurs postes et camps de la rébellion en Casamance lors d'une opération lancée il y a 2 semaines pour renforcer le contrôle de la frontière avec la Guinée-Bissau. L'opération a fait 2 blessés dans les rangs des militaires, un officier victime d'une mine antipersonnelle et un soldat atteint par balle, a dit le commandant Mathieu Diogaïsen à la presse à Ainga, près de la frontière. En Algérie, 2 jours après les élections législatives anticipées, le pays reste dans l'attente de la publication des premiers résultats. Alors que le principal parti islamiste en lice, le MSP, a revendiqué la victoire hier. Le point avec Jacques Aristide.
D'ores et déjà une grande gagnante, l'abstention record. Et pourtant, c'était l'enjeu principal. Le taux de participation provisoire n'a atteint que 30,20%, moins que lors des 2 dernières législatives en Algérie, moins également que pour la présidentielle de 2019, qui avait vu Abdelmadjid Tebboune être élu avec seulement 40% de participation. Pas de grandes attentes, même chez certains de ses électeurs, qui se sont rendus aux urnes samedi. Les opérations de vote se sont déroulées généralement dans le calme, à Alger et en province, sauf en Kabylie, région traditionnellement frondeuse. Le mouvement contestataire du Irak et une partie de l'opposition boycottaient le scrutin. L'Irak parle d'une mascarade électorale au moment où le parti islamiste MSP affirme arriver en tête, mais en raison du dépouillement jugé compliqué, Mohamed Chorfi, le chef de l'autorité des élections, indique que les résultats officiels pourront ne pas être connus avant plusieurs jours.
La majorité des membres du Conseil de sécurité de l'ONU réclament la tenue d'élections libres et justes au Mali en février 2022 sans la participation des dirigeants actuels et s'affirment en faveur d'une reconduction de la MINUSMA. Il est essentiel que les élections soient gérées de manière impartiale et transparente, a estimé l'ambassadeur américain adjoint à l'ONU, Jeffrey De Laurentiis, soutenu par le Niger, le Mexique, la Norvège ou l'Irlande. Faisant part de son inquiétude face aux violences policières en Tunisie, l'ONU presse les autorités d'enquêter et de sanctionner les auteurs d'exactions. Le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme cite notamment la mort le 8 juin d'un jeune homme à la suite de son arrestation dans le quartier Sidi Hassine à Tunis. Sa mort a été suivie par des troubles. Des vidéos sur les réseaux sociaux le lendemain montraient des policiers qui semblent déshabillés molester un jeune mineur à terre, précise l'ONU. Le Kenya va rouvrir son ambassade en Somalie dès que possible, ont annoncé les autorités de Nairobi, répondant favorablement à une proposition de leurs voisins. Le ministre somalien des Affaires étrangères a adressé ce week-end un courrier à son homologue kényan, l'invitant à rouvrir la représentation diplomatique à Mogadiscio, fermée depuis décembre après la rupture des relations par la Somalie. L'ambassadeur kényan avait été expulsé et l'ambassadeur somalien rappelé. Des pêcheurs ont retrouvé près du détroit de Bab el-Mandeb et de Djibouti 25 corps de migrants qui tentaient d'atteindre le Yémen. Le bateau transportait près de 200 personnes selon les autorités yéménites. L'OIM a confirmé le naufrage d'une embarcation près des côtes de Ras al-Arab dans la région de l'Aj. Malgré le conflit au Yémen, les migrations clandestines se poursuivent à partir de l'Afrique de l'Est, notamment de l'Éthiopie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après plus de 12 ans de gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou et 4 élections indécises, Israël a un nouveau gouvernement, une coalition hétéroclite de 8 partis. Le premier ministre Naftali Bennett du parti de droite Yamina siégera pendant 2 ans, suivi du centriste Yair Lapid. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Ces confettis ont envahi les rues de Tel Aviv hier soir après la démission officielle de Benjamin Netanyahou, tandis qu'au Parlement israélien, le nouveau Premier ministre Naftali Bennett a été chahuté et plusieurs membres extrémistes de la Knesset ont été expulsés de la Chambre.
Benjamin Netanyahou.
Il est le premier ministre israélien à être religieux. Je serai le premier ministre de tous les Israéliens, y compris ceux qui n'ont pas voté pour moi. Monsieur Bennett a promis d'ouvrir un nouveau chapitre avec les citoyens arabes d'Israël. Le premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, a pour sa part violemment attaqué Monsieur Bennett, le traitant de menteur et promettant de revenir au pouvoir bientôt. Il y a eu des célébrations en Iran, a accusé M. Netanyahou. Une insinuation que M. Bennett ne serait pas en mesure d'empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire. Les Palestiniens, eux, ont dit ne s'attendre à aucun changement dans la politique d'Israël sous ce nouveau Premier ministre.
Un nouveau départ et une révision de ses concepts stratégiques pour inclure les nouveaux défis posés par la Chine et la Russie. C'est ce qui ressort du sommet de l'OTAN à Bruxelles, marqué par la présence du président américain Joe Biden, qui poursuit sa première visite internationale depuis sa prise de fonction. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les dirigeants de l'OTAN veulent une meilleure prise en charge des nouveaux défis posés par la Russie et la Chine, réconfortés par la promesse de Joe Biden de revitaliser les relations transatlantiques. Dans sa déclaration finale, le sommet avertit qu'il n'y aura pas de retour à la normale tant que Moscou viole le droit international. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a indiqué en conférence de presse que les relations entre l'Alliance et Moscou étaient à leur plus bas niveau et promis de soutenir l'Ukraine dans son bras de fer avec la Russie. Il s'est aussi réjoui de la présence et de l'engagement du président américain Joe Biden et a appelé les pays membres à poursuivre leurs efforts qui consistent à augmenter leurs contributions financières. Concernant la Chine, l'OTAN indique dans le texte final que ses ambitions constituent des défis systémiques. Autre décision forte, l'OTAN continuera d'assurer le fonctionnement de l'aéroport international de Kaboul alors que les dernières troupes américaines quitteront l'Afghanistan en septembre. Par ailleurs, Joe Biden doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine mercredi à Genève, dernière étape de son voyage en Europe. La question de la cybercriminalité sera au centre des discussions avec son homologue russe.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Jean-Roger Bion.
Le Ghana a planté ce week-end 5 millions d'arbres dans une campagne de reforestation grâce à l'opération Green Ghana, menée par le gouvernement qui vise à encourager le reboisement de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Ghana compte aujourd'hui 1,6 million d'hectares de forêt contre 8,2 millions au début du XXe siècle, selon des statistiques du ministère de la Terre et des Ressources naturelles. L'appui de l'Allemagne aux actions du gouvernement togolais dans le cadre de la riposte et de la gestion du Covid-19 s'évalue à plus de 6 milliards de francs CFA, a indiqué dimanche 13 juin le ministre allemand de la coopération économique et du développement, Dr. Müller-Gerd. Cet appui se constitue essentiellement de dons d'équipements médicaux de lutte contre le Covid-19 et des vaccins dans le cadre du programme COVAX parrainé par l'OMS. Le ministre allemand est en visite de travail de 3 jours au Togo. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a signé dimanche au Caire des accords pour le financement de plusieurs projets de développement en Égypte pour un montant de 3,8 milliards d'euros. Au nombre des projets figure un contrat pour améliorer le réseau ferroviaire égyptien qui sera signé dans les 6 mois. 9 autres projets sont inclus dans l'accord intergouvernemental signé avec les ministres égyptiens des Finances, Mohamed Maït, et de la coopération internationale, Rania El-Meshat. Ils seront financés par l'Agence française de développement, AFD, à hauteur de 1 milliard d'euros entre 2021 et 2025.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. On connaîtra le dernier qualifié de la prochaine CAN ce soir. Le match en retard de la dernière journée des éliminatoires dans le groupe L se dispute à Conakry en Guinée, en terrain neutre entre le Bénin et la Sierra Leone. Prévu le 30 mars dernier à Freetown, une affaire de vrai faux test de Covid positif avait fait reporter cette rencontre. La bataille s'est ensuite poursuivie auprès des instances, la CAF et le TAS, qui tous les deux ont décidé de faire rejouer le match pour se qualifier. Les Béninois n'ont besoin que d'un match nul, tout le contraire des Sierra Leonais, qui doivent forcément l'emporter avant de composter leur billet pour la CAN, qui se disputera en janvier-février prochain au Cameroun. Des nouvelles de l'Euro, l'Écosse, absente des compétitions internationales majeures depuis 1998, a raté son retour en s'inclinant 2-0 devant la République tchèque. Les Tchèques rejoignent l'Angleterre, victorieuse hier de la Croatie 1-0 en tête du groupe D. L'Écosse ira défier l'Angleterre dans un duel facticide vendredi à Wembley, alors que les Tchèques affronteront la Croatie à Glasgow. À suivre aussi ce soir le choc dans le groupe E entre l'Espagne et la Suède. Du handball, à présent avec la CAN féminine à Yaoundé au Cameroun, les derniers matchs de la phase de poule ont eu lieu hier avec la bonne performance de l'Angola, vainqueur du Congo 29-24 pour réussir un sans faute 3 victoires en 3 matchs. Les tenantes du titre joueront en quart de finale à la RDC. De son côté, le Congo-Brazzaville affrontera le Sénégal défait 13-30 par la Tunisie. Les Tunisiennes joueront les Guinéennes qui ont obtenu leur qualification après avoir battu Madagascar 35-16. Le dernier match de ces quarts de finale mettra aux prises le pays hôte, le Cameroun, au Nigeria. NBA, les Phoenix Suns sont la première franchise à se qualifier pour les finales de conférence Ouest. Bagassi Koura.
Oui, après leur 4e victoire en 4 matchs sur le parquet des Denver Nuggets 125-118, les Phoenix Suns retrouvent la finale de conférence pour la première fois en 11 ans. Symbole de la frustration de Denver, son pivot Nikola Jokic, élu MVP cette année, a été exclu lors du 3e quart-temps pour un coup au visage dans une action de jeu sur Cameron Payne et a fini le match qu'avec 22 points et 11 rebonds. Phoenix affrontera lors des finales à l'Ouest le vainqueur entre les Los Angeles Clippers et Utah Jazz. Ces derniers menant la série 2-1. À l'Est, Milwaukee a égalisé à 2-2 contre Brooklyn grâce à sa victoire 116-96. Les Bucks, après leurs deux défaites initiales à New York, ont bien redressé la barre. Les Nets vont devoir repartir à 0 ce soir à Brooklyn.
Merci, Bagassi.
Merci beaucoup, Yakuba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Le Bénin a débuté l'administration de la seconde dose de vaccination contre le coronavirus. Une campagne d'immunisation lancée par le ministre de la Santé, Benjamin Onkpatine. Sur le terrain, les sceptiques restent à convaincre, selon notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Comme à la première dose, c'est le ministre de la Santé, Benjamin Onkpatine, qui a donné le top de la campagne nationale de vaccination en se faisant administrer sa dose de vaccin. À sa suite, plusieurs ministres montrant ainsi à la population que cette deuxième dose est importante pour l'efficacité du vaccin dans notre corps.
Comme vous pouvez le constater, nous sommes encore tous bien vivants, bien debout, bien portants. Et c'est pour dire à la population encore une fois que nous avons les vaccins au Bénin. Et il est question aujourd'hui que nous puissions sortir massivement pour nous faire vacciner. Lorsqu'on se vaccine contre la COVID-19, c'est quasiment 100% d'éviction de forme grave.
Au total, 78 centres de vaccination sont apprêtés pour recevoir les personnes cibles. Il s'agit en première ligne des agents de santé, des personnes âgées de plus de 60 ans et des personnes vivant avec des maladies chroniques que sont le diabète, l'axe, l'hypertension artérielle, la drépanocytose, etc. À ce lancement de la deuxième dose de la vaccination contre la COVID-19, il y avait également Dr Mamoudou Haruna Djingare, représentant résident de l'OMS au Bénin. Il a appelé les Béninois à sortir massivement se faire vacciner.
L'Organisation mondiale de la santé monitore les effets secondaires dans l'ensemble des pays, des 47 pays membres de l'OMS. N'avons reçu aucun effet secondaire grave qui a été rapporté.
À sa suite, Diana Boumaoundé, représentante de l'UNICEF au Bénin, a pris sa dose et s'est adressée aux parents qui, par crainte qu'on administre à leurs enfants le vaccin contre la COVID-19, les empêche d'être vaccinés contre la poliomyélite, craignant une supercherie.
La COVID-19 aujourd'hui est une crise. Une crise surtout pour les droits des enfants. Leur santé, leur protection, leur éducation ont été affectées. Pour les enfants, pour nos enfants, pour leur avenir, pour nous, pour notre protection, vaccinons-les.
Le gouvernement béninois a officiellement lancé la campagne de vaccination contre la COVID-19 à Cotonou avec 144 000 doses d'une première livraison dans le cadre du mécanisme COVAX avant de recevoir en mai dernier d'autres doses qui lui ont permis d'étendre la campagne à tous les Béninois qui répondent aux critères. Mais dans le rang de la population, beaucoup sont méfiants et préfèrent se passer de la vaccination même si elle est gratuite.
Non, je ne suis pas fait vacciner parce que vraiment le tout est fort. Aujourd'hui, nous avons une multitude de vaccins. Vraiment, si déjà entre les grandes nations, on doute, on doute. D'abord, on nous a amené les vaccins 7. Nous ne sommes pas sensibilisés du tout pas. On parle des effets secondaires minimes. L'effet secondaire minime pour moi, elle est la même que l'effet secondaire minime dont parlent nos autorités.
À entendre les gens parler, ça a tellement de conséquences néfastes sur notre santé. Ce pourquoi je ne suis pas encore allée le faire.
La vaccination contre la COVID-19 au Bénin, c'est le choix entre les vaccins des laboratoires AstraZeneca et Sinovac. Elle est ouverte à tout sujet âgé de 18 ans. De Cotonou, je n'ai plus à donner pour VOA Afrique.
Depuis dimanche, plusieurs pays organisent des forums et activités pour mieux faire connaître l'albinisme. Dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, observée le 13 juin, en plus de la fragilité de leur peau, les albinos se sont souvent victimes de discrimination. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, Thierry Kaoré s'est entretenu avec Maïmouna Déné, présidente de l'Association des femmes albinos du Burkina Faso.
En 2013, voilà, il y a eu un recensement général qui estimait juste les enfants albinos à peu près 1800 enfants, de 0 à 18 ans. Ça, c'est en 2013. Et un autre recensement récent, c'est-à-dire en 2019, estime à peu près 2000 albinos dans deux régions du Burkina, c'est-à-dire la région des Hauts-Bassins et la région des Cascades. Mais le fait aussi qu'on ne voit pas les albinos beaucoup souvent parce que la plupart des difficultés font que beaucoup d'entre nous préfèrent rester dans l'ombre.
Parlons justement de ces difficultés. Pourquoi les personnes albinos n'arrivent-elles pas à se faire accepter dans la société?
Oui, c'est la triste réalité du vécu des personnes albinos de façon générale, mais souvent surtout les femmes albinos et les mamans d'enfants albinos. Pour dire, la stigmatisation commence déjà souvent même par la mère de l'enfant albinos parce que dans certaines régions, la maman, celle qui a porté l'enfant albinos, est souvent même indexée. Parce que pour d'autres, l'enfant est né albinos pour juste confirmer l'infidélité de la femme. Pour d'autres, c'est parce que la femme est suivie par une malédiction. Voilà pourquoi l'enfant a la couleur blanche. Certains approchent les femmes albinos juste parce qu'ils se sont mis dans la tête qu'en ayant l'intimité avec elles, ça peut les procurer du pouvoir, ça peut les procurer de la richesse. Mais après un ou deux enfants, si tout ce qui se sont mis dans la tête n'arrive pas, la femme albinos est simplement abandonnée et souvent avec deux ou trois enfants. Des fois, à l'école, l'enfant albinos qui est en classe d'école primaire, ses camarades ne comprennent pas forcément pourquoi sa peau est différente d'eux. D'autres préfèrent ne même pas s'asseoir avec lui sur le même banc.
Et quelles sont les actions menées par votre association pour venir justement en aide à ces personnes-là?
Au sein de notre association, en tout cas, on se bat comme on peut, voilà, pour rassurer les membres, pour rassurer les personnes albinos. Cependant, nous rencontrons aussi beaucoup de difficultés. On a besoin des moyens logistiques. On a besoin de beaucoup de formations parce que c'est ce qui peut vraiment aider. Donc, je profite vraiment de l'occasion pour demander aux partenaires vraiment de nous accompagner sur tous ces plans pour vraiment permettre à l'association d'arriver vraiment au bout vraiment de ses objectifs parce que le chemin est encore long pour les personnes albinos.
Maïmouna Déné est présidente de l'Association des femmes albinos du Burkina Faso.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Israël a un nouveau gouvernement dont la formation met un terme à 12 années de pouvoir ininterrompu de Benjamin Netanyahou en tant que Premier ministre. L'ex-chef du gouvernement a assuré qu'il reviendrait bientôt au pouvoir. Jean-Roger Bion a joint l'analyste israélien Eli Carmon.
Aucune personne n'est pas remplaçable. Donc, le fait que le Premier ministre Netanyahu a tenu le pays pour plus de 2 ans, après 4 élections successives, je crois qu'il n'y avait pas autre alternative que de changer de gouvernement. Le problème, c'est qu'un gouvernement qui a une marge de différence très étroite dans les votes du Parlement, c'est un gouvernement qui aura des difficultés de survivre parce que, justement, Monsieur Netanyahu et son parti feront le tout possible pour tenter de déstabiliser le nouveau gouvernement.
Alors si on essaie d'être positif, quelles sont les chances de survie de ce gouvernement?
Ce gouvernement a décidé d'unifier des courants politiques très divers, de la droite au centre et à la gauche, et se consacrer surtout à stabiliser le pays du point de vue politique et aussi de reprendre l'économie après la crise de l'épidémie. Le problème, je crois, sera s'il y aura un événement un incident ou une opération militaire qui peuvent déstabiliser le gouvernement dans le sens que le parti islamique qui détient d'ailleurs la balance politique dans le pays décide de sortir du gouvernement.
Monsieur Netanyahou promet de revenir au pouvoir. En a-t-il les ressorts, monsieur Camon?
Et cela, on pourra le voir peut-être dans les prochains jours et semaines, parce que le Hamas menace l'action militaire à cause de des incidents qui peuvent se passer à Jérusalem. Et c'est cela le premier test sérieux. Et donc, nous sommes dans une période de transition, disons, où certains événements peuvent influer, déstabiliser le gouvernement ou faire tomber le gouvernement. D'autre part, s'il résiste à ces pressions et l'unité des rangs en face de la menace de Netanyahou, parce que Netanyahou continue de représenter une menace politique. L'unité des troupes, disons, il y a huit partis qui forment cette coalition, ils peuvent continuer parce que, en fait, le statu quo sur les questions stratégiques de relations entre la religion, les partis religieux et ceux qui sont séculaires, ne change pas de manière importante. Et aussi sur le plan de relations avec les Palestiniens, surtout l'annexion de nouveaux territoires ou un processus qui produirait un État palestinien. Pour le moment, on voit encore un changement, justement parce que les Américains aussi, les États-Unis, ne sont pas en mesure de changer cette situation sur le terrain.
Élie Carmon, spécialiste en stratégie et terrorisme au Centre interdisciplinaire de Herzliya en Israël.
Abdourahmadia avec vous dans Washington Forum cette semaine, la première visite chargée de Joe Biden à l'étranger depuis sa prise de fonction. Après avoir pris part à une rencontre du G7, le locataire de la Maison Blanche a participé au sommet de l'OTAN avant son face-à-face avec le président russe Vladimir Poutine. Pour l'administration Biden, ce voyage marque le retour de Washington dans son rôle de leadership mondial et une manière de réparer ses relations avec ses alliés traditionnels. Nous discuterons de l'Amérique sous Biden et le reste du monde ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, VOA Afrique.
Un face-à-face très attendu cette semaine. Le président américain Joe Biden rencontre son homologue russe Vladimir Poutine mercredi en Suisse. Ce premier sommet entre les deux dirigeants vise à améliorer les relations entre Washington et Moscou. À l'agenda, plusieurs questions à régler, y compris les cyberattaques au rançongiciel attribuées à des hackers basés en Russie. Un reportage de Michel Quinn, le récit est de Jacques Aristide.
Un tête-à-tête avec d'importants enjeux à Genève. L'ordre du jour va être chargé pour cette réunion au sommet entre l'Américain Joe Biden et le Russe Vladimir Poutine. Parmi les nombreuses questions à aborder, l'emprisonnement du chef de l'opposition russe Alexei Navalny, dont les groupes anticorruption ont récemment été qualifiés d'organisations extrémistes par le tribunal municipal de Moscou. Les deux dirigeants ont déjà déclaré que les rapports américano-russes étaient au plus bas. Le sommet survient à un moment pour le président Biden de voir si les deux pays vont pouvoir entretenir des relations plus prévisibles et plus stables. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a émis cet avertissement. C'était lors d'un entretien dans l'émission This Week sur la chaîne ABC.
Si la Russie choisit de continuer à agir de manière agressive, à agir de manière imprudente, nous répondrons avec force, comme le président l'a déjà dit.
L'agenda du président Biden inclut les récentes cyberattaques aux États-Unis contre l'approvisionnement en nourriture et en gaz par des pirates informatiques soupçonnés d'être basés en Russie. Il est prévu que le locataire de la Maison Blanche demande à la Russie d'extrader les pirates informatiques présumés vers les États-Unis. Vladimir Poutine a déclaré à la télévision d'État russe que Moscou le ferait à une condition, que Washington accepte de faire de même. Environ la moitié des Américains disent de faire confiance en la capacité de Biden à négocier avec Poutine. Selon un sondage ABC Ipsos, réalisé au début du mois en cours, des élus se demandent si Biden devrait même rencontrer Poutine et si les mesures prises par le président américain jusqu'à maintenant ont été assez fortes, en particulier en réplique aux cyberattaques. Le républicain Mike McCall, un élu du Texas, lors d'une interview dans This Week sur ABC.
Le président doit faire comprendre ceci à Poutine. Il y aura des conséquences à vos actions si vous continuez sur cette lancée. Ils ont fait de telles choses au cours des derniers mois seulement. C'est extraordinaire. Les sanctions sont excellentes. Mais je pense qu'il est temps de commencer à penser à contre-attaquer.
Les deux dirigeants ont également prévu d'aborder d'autres sujets tels que la sécurité régionale, les armes nucléaires et l'environnement.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. À très bientôt et bon courage.